BFM Business. L'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag. Erwan Morris.
Et bienvenue dans Happy Boulot, ravi de vous retrouver ces prochains mois sur BFM Business en l'absence de Lorraine Goumeau que vous retrouverez très prochainement sur notre antenne. Au programme aujourd'hui, la crise de l'emploi sans précédent chez les aides à domicile. La profession n'arrive plus à recruter. Alors quelle stratégie mettre en place pour attirer de nouveaux profils, de nouveaux talents? Nous serons avec l'un des spécialistes du secteur, le patron de WeHelp pour l'entretien de la semaine. Notre sujet sur la table, pas très drôle, mais au combien important. On va parler de la détresse psychologique des salariés en France. 2 millions présenteraient aujourd'hui un risque de burn-out. On évoquera quelques pistes avec nos invités afin de voir comment est-ce qu'on peut aussi améliorer une situation de plus en plus préoccupante. Et puis pour terminer, votre CSE se modernise, comment les comités d'entreprise font un bond en avant avec le numérique. On en parle en fin d'émission avec le cofondateur de La Solution, Hello CSE. Voilà le programme, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'entretien DRH.
Et d'abord donc, la crise du secteur de l'aide à domicile, les difficultés à recruter n'ont jamais été aussi importantes. Aurélie Pasquier, les fédérations du secteur s'alarment d'une situation de plus en plus préoccupante.
Et oui, 40 600 postes sont à pourvoir dans la branche du service à la personne d'après l'Union nationale de l'aide des soins et des services au domicile. Et la pénurie de personnel est la raison principale du manque de prise en charge des patients Erwan en 2022. C'est une demande sur 10 qui a été refusé, un chiffre qui a augmenté de 20% depuis 2020. Un quart des demandes ne peuvent pas être prises en charge intégralement. Le secteur médico-social manque de bras et aura besoin de se réinventer pour réussir à recruter. En effet, pour 96% des directeurs de structures, il faut améliorer les conditions de travail pour attirer de nouveaux talents. Et c'est le cri d'alarme de l'UNA, rendre ces métiers de nouveau attractif. Nous avons atteint le point de rupture. Alerte Marie-Reine Tillon, la présidente de l'UNA.
Merci Aurélie. Pour aller plus loin, notre invité nous rejoint, un spécialiste du secteur. Bonjour Victor Sebag.
Bonjour Erwan.
Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur de WeHelp, entreprise d'aide à domicile. On va parler de ce que vous proposez pour tenter de contrer ce phénomène dont vient nous parler Aurélie à l'instant. Mais d'abord, vous êtes en première ligne, ce constat alarmant qui est dressé, vous le partagez ?
On le partage, l'urgence du moment et les enjeux à venir, parce qu'on connaît tous le vieillissement de la population. Aujourd'hui, c'est 2,5 millions de personnes en perte d'autonomie en France, et ce seront 4 millions d'ici 2050. Donc les enjeux vont croissant, et donc les besoins de recrutement vont être aussi croissants. Et pour ça, on a plusieurs solutions pour attirer des gens dans le secteur et les fidéliser.
On va en venir, mais d'abord, effectivement, il y a une crise conjoncturelle. On parle énormément en ce moment des retraites. On voit bien qu'avec le vieillissement de la population, le secteur dont vous êtes spécialiste, il va avoir un rôle considérable à jouer. Et donc c'est aujourd'hui qu'il faut trouver des solutions pour pouvoir être présent demain quand on aura largement dépassé ce seuil critique.
Il y a des solutions qu'il faut trouver dès aujourd'hui. Il y a des solutions, vous parliez de conditions de travail dans le lancement, qui sont effectivement un point très important. Il y a la rémunération, que je mettrai encore avant ça, qui est une évidence, mais rendez-vous compte, aujourd'hui, les auxiliaires de vie qui prennent soin de nos aînés, de ces personnes qui nous sont chères, font partie des populations les plus précaires, d'après l'INSEE. Donc c'est vraiment un des cœurs du sujet auquel il faut s'attaquer. Et le dernier point, pardon, c'est les perspectives qui leur sont données quand elles rentrent dans ce secteur d'activité.
On va parler de tout ça, justement. Donc, il y a urgence à revaloriser ces métiers des aides à domicile. Ça passe par quoi ? Première priorité ?
La rémunération. J'y reviens tout de suite. Le salaire, il y a deux aspects au salaire. Il y a la rémunération horaire. Aujourd'hui, le secteur rémunère ses acteurs au SMIC, et donc c'est déjà le premier item sur lequel on peut faire quelque chose. Chez WeHelp, on a un premium par rapport à notre secteur d'activité d'à peu près 8% de rémunération additionnelle. Et au-delà de la rémunération horaire, ce qu'il faut, c'est pour ces populations qui ont souvent des temps partiels subis, c'est réussir à leur apporter un volume de travail important et stable d'un mois sur l'autre.
Parce que ça, c'est aussi un frein aujourd'hui ?
C'est un des enjeux quand vous avez des gens qui ont des difficultés à boucler leur fin de mois, et je ne vais pas revenir sur des sujets d'inflation ou autre, mais évidemment, c'est un enjeu majeur que d'avoir une rémunération qui leur permet de bien vivre et de subvenir à leurs besoins.
Vous nous dites qu'aujourd'hui, on est globalement autour du SMIC pour ces postes.
Ouais.
On pourrait aller jusqu'où ?
Bah, chez WeHelp, donc aujourd'hui, on est déjà à 11% au-dessus du SMIC sur les gens qui travaillent en temps plein avec nous. Donc plus de 1500 euros net par rapport au SMIC à 1353 euros.
Et qui paye au bout du compte ?
Qui paye, c'est donc la personne âgée qui paye pour évidemment les prestations qu'elle reçoit. Mais chez WeHelp, on a toujours eu une démarche de partager la valeur qui est créée par le service qui est proposé entre évidemment le développement de l'entreprise pour être pouvoir accompagner le plus grand nombre et reverser une partie de cette valeur aux auxiliaires de vie qui sont...
Et les clients, les patients sont prêts à payer plus cher. Aurélie Pasquier nous disait au tout début que 1 sur 10, une demande sur 10 de prise en charge est refusée parce qu'on n'a pas les personnels. C'est-à-dire que si on dit bah, vous allez payer plus cher et vous allez avoir plus de chances d'avoir quelqu'un qui va venir vous aider à domicile, ça peut fonctionner.
Écoutez, payer plus cher, c'est pas nécessairement la solution. Ce qu'il faut, c'est dégager des marges de profitabilité qu'on peut reverser dans le salaire des auxiliaires de vie. Pour faire ça, chez WeHelp, on a fait le choix de la technologie pour gagner en efficacité sur énormément de moments dans ce secteur d'activité qui font preuve d'inutilité, de non-performance, pour utiliser ça sur le salaire des auxiliaires de vie. Ce qu'on peut faire aussi, c'est il y a un glissement des tâches dans la pyramide médico-sociale. Les médecins délèguent aux infirmières, qui délèguent aux aides-soignants et qui délèguent aux auxiliaires de vie. Et en fait, ces tâches qu'elles se retrouvent à faire, qui sont d'un ordre quasi médical parfois, doivent se répercuter en un accroissement de rémunération. C'est ce qu'on souhaite.
Vous avez un objectif chez WeHelp de recrutement qui est très important, hein, 400 personnes par mois cette année. Objectif donc 2500 auxiliaires de vie à la fin de l'année. Est-ce que vous arrivez à répondre à cet objectif ?
Écoutez, aujourd'hui, oui. Je dis pas que c'est pas aussi facile dans tous les territoires. Il y a des territoires qui sont particulièrement tendus. Je pense à Lorient, à Bayonne, à Bordeaux, à certains secteurs de Lyon par exemple qui sont difficiles en recrutement. Mais avec les éléments dont je vous parlais de rémunération, de conditions de travail, par exemple en limitant les trajets d'une auxiliaire de vie dans une journée entre les domiciles des personnes âgées qu'elle doit accompagner, en ayant de la reconnaissance, en ayant des perspectives, il y a une quinzaine d'auxiliaires de vie qui ont déjà évolué chez WeHelp sur des postes d'encadrement et de coordination, et ben oui, on arrive à recruter. Aujourd'hui, c'est plus de 10 000 candidatures par mois qu'on reçoit chez WeHelp de gens qui souhaiteraient faire ce métier.
On se rend compte que c'est d'ailleurs, quand à vous écouter, c'est pas un problème qui concerne uniquement les aides à domicile, mais la question des trajets, etc. Les infirmiers, infirmières à domicile sont aussi largement concernés par ces sujets. La rémunération, on vient d'en parler. La formation aussi, c'est quelque chose qui peut rendre attractif ce métier ?
Absolument, absolument. Aujourd'hui, je vous disais, par exemple, 10 000 candidatures par mois, c'est ce qu'on reçoit. En fait, là-dedans, il y a une partie des gens qui ne sont pas éligibles, de notre point de vue, à faire ce métier, parce que c'est un métier qui ne s'invente pas. Il faut de la formation, il faut de l'expérience. Et un des leviers, c'est d'amener ces gens vers l'emploi. À partir de mai, nous, on lance un format de professionnalisation et de préparation à l'emploi pour devenir auxiliaire de vie pour tous ces gens qui ont envie de s'engager auprès de nos aînés et qui aujourd'hui n'en ont pas le droit.
Mais donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut ? C'est quoi les prérequis ? Vous allez former ces gens-là, mais ils doivent avoir quoi déjà ? Un diplôme ou pas forcément ?
Exactement, il y a plusieurs diplômes pour pouvoir exercer auprès du public fragile que sont les personnes âgées en perte d'autonomie ou les personnes en situation de handicap. Il y a le titre d'assistant de vie aux familles, le diplôme d'auxiliaire de vie sociale, et c'est vers ces diplômes-là qu'on a envie de les emmener.
Bon, d'un mot, un de vos paris aussi, c'est celui du numérique. C'est un argument d'attractivité, ça aussi ?
Bien sûr, je vous parlais de reconnaissance pour les auxiliaires de vie. Une des choses qu'on fait, par exemple, c'est qu'on leur a mis entre les mains, on est les premiers, une application qui leur permet de gérer plus facilement leur quotidien, justement, leur planning d'intervention, de faire remonter des difficultés dans les accompagnements auprès de certaines des personnes âgées qu'ils ou elles accompagnent. Et ça, c'est un des exemples de contribution de la technologie. Je parlais aussi de réduire les temps de trajet. On a un algorithme qui permet d'optimiser, justement, les déplacements des auxiliaires de vie entre les personnes qu'elles sont censées accompagner dans une journée, dans une semaine.
Ah ben très bien. Un dernier mot d'actualité, parce qu'on parlait des retraites. Les fédérations s'inquiètent aussi des départs en retraite des salariés, hein, donc des aides-soignants, qui risquent de ne pas être remplacés. C'est un sujet qui vous préoccupe également ?
C'est un sujet qui nous préoccupe évidemment. Aujourd'hui, il y a des auxiliaires de vie de tous âges, oui, qui font partie de la force de travail. C'est un secteur qui aujourd'hui attire par la mission qui est celle de notre secteur d'activité, de notre métier, mais qui rebute aussi par tous les sujets qu'on a traités et qui ont besoin d'être améliorés, de rémunération et de conditions de travail. Et donc, il faut absolument résorber ça pour pouvoir remplacer ces gens qui vont partir à la retraite dans les années qui viennent.
Merci beaucoup, Victor Sebak, cofondateur de WeHelp.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Le sujet sur la table.
Et des difficultés de recrutement, on passe au sujet du bien-être en entreprise avec ce chiffre. Plus de 4 salariés sur 10 seraient en détresse psychologique selon le dernier baromètre du cabinet Empreinte Humaine. Les détails en quelques secondes avec Nathan Cocampo et on commente juste après ça.
2 millions de salariés présentent un risque de burn-out sévère, un niveau toujours deux fois plus élevé qu'avant la crise sanitaire. Il y a bien un avant et un après pandémie. Plus de 4 Français sur 10 présentent de la détresse psychologique avec des symptômes de dépression et d'épuisement. Une détresse liée pour une grande majorité d'entre eux au travail. Depuis 3 ans, cette détresse psychologique concerne plus particulièrement les femmes, les jeunes et les managers, avec des préoccupations autour des inégalités et du rapport au travail. Aujourd'hui, la question des retraites inquiète aussi. 7 Français sur 10 pense ne pas pouvoir tenir avec le recul de l'âge de départ.
Bonjour Christophe Nguyen.
Bonjour.
Vous êtes le président d'Empreinte Humaine, cabinet qui a réalisé ce baromètre. Merci d'être avec nous. Nous sommes également avec Leïla Virasamy. Bonjour.
Bonjour.
Directrice du cabinet de Crush On, galerie marchande de vêtements vintage en ligne. Pour commencer, d'abord Christophe Nguyen, peut-être la situation que vient nous décrire Nathan Cocampo, elle devient effectivement particulièrement inquiétante.
Oui, elle l'est. Et puis, ce qu'il est encore plus, c'est que ça fait 36 mois, ça fait 3 ans au final qu'on a un état psychologique des salariés qui est dégradé. Et de plus en plus d'études montrent qu'il y a l'intensité qui est importante, mais il y a aussi la durée. Donc la chronicité finalement de cet état fait que malheureusement, on peut s'attendre à une augmentation de l'absentéisme encore dans les prochains temps, des arrêts maladie hein, pour des raisons oui, psychologiques. Et il y a encore une fois beaucoup de débats sur la question du rapport au travail, parce que c'est ce qu'on a montré aussi, hein, c'est que il y a un fort lien statistique, hein, une corrélation entre un rapport à son travail dégradé et un état mental dégradé. Mmh.
Ça peut être quoi les explications de ce malaise avec toutes les entreprises qui aujourd'hui, on a l'impression en tout cas, mettent au cœur de leur ADN le bien-être au travail, oui. On a du mal à se dire que ça fonctionne quand on voit les chiffres que vous nous donnez.
On peut même parler d'un échec, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté effectivement des entreprises qui affichent et qui je pense ont des bonnes volontés d'agir autour de ça, mais il y a certainement une question de connaissances, de méthodes et d'approches, et la majorité des salariés disent 9 sur 10, hein, voire l'unanimité, que les entreprises peuvent faire bien plus en termes de prévention des risques psychosociaux, au-delà des approches un peu pomme, carotte, vélo, tout ce qui est autour de la nutrition, tout ce qui est autour du sommeil. Ça, les salariés n'en veulent plus. Ils veulent qu'on améliore leurs conditions de travail. Et le contexte autour des retraites invite effectivement à questionner cela. Mmh. Et c'est vraiment un angle mort aujourd'hui.
Leïla Virasamy, vous êtes directrice du cabinet de Crush On, une galerie marchande de vêtements vintage en ligne, pour hommes, pour femmes. Une vingtaine de salariés.
C'est ça, exactement.
Vous, c'est un sujet que vous avez décidé de mettre au cœur de votre stratégie, ça passe par quoi typiquement et très concrètement ?
Oui, c'est pour nous cette question du burn-out, notamment dans le rapport de Christophe. On voit que ça concerne énormément les jeunes et on est une entreprise qui est très très jeune. Concrètement, c'est quelque chose qu'on a mis en place à travers les procédures de recrutement, à travers les procédures d'onboarding. On a des mesures concrètes pour avoir un suivi du bien-être des employés, pour assurer leur pérennité dans notre entreprise.
Alors justement, vous... On veut du concret.
Ouais,
donc au
niveau
des,
tout à fait. Alors au niveau des mesures pour nous, le bien-être et le suivi d'un employé, ça commence même avant l'intégration du talent, c'est-à-dire au niveau du recrutement. Donc une de mes nombreuses missions au sein de Crochon, c'est de m'occuper du recrutement. Et dès les premiers entretiens d'embauche, on veut faire en sorte qu'il y ait un certain fit culturel entre le talent et notre compagnie. Donc on est vraiment conscient qu'au niveau d'une start-up, c'est souvent un rythme
C'est cerner la personnalité du candidat,
essayer de comprendre si en effet le candidat a une personnalité qui s'adapte par rapport au rythme de travail d'une start-up. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Une start-up comme la nôtre qui a forte croissance, ça veut dire un rythme qui est assez dynamique. Et nous,
un rythme assez dynamique, c'est-à-dire quoi? Qu'on compte pas ses heures, on peut travailler le week-end?
Non, pas forcément, on va pas aller jusqu'à là. Mais ça veut dire qu'on est quand même, il y a beaucoup de choses qui changent au niveau de la compagnie. C'est-à-dire qu'on a des projets qui sont des projets, des fois à court, moyen terme, qui changent beaucoup, qui évoluent beaucoup. Et c'est ça exactement ce qu'on veut. On veut que les projets évoluent parce que ça veut dire qu'on évolue aussi au niveau de l'économie circulaire, ce qui est une très bonne chose. Et au niveau du recrutement, ce qu'on demande, c'est on essaie de voir, de cerner le candidat dès le premier entretien et de voir est-ce que c'est un candidat qui va être dynamisé par cet environnement ou c'est un candidat qui ne va pas forcément matcher. Et ce qu'on se rend compte, en étant particulièrement dans ce cadre d'économie circulaire, c'est que quand on voit en face de nous des candidats qui sont très passionnés par nos mêmes engagements de vouloir démocratiser la mode circulaire, de vouloir éliminer le gaspillage textile, ils sentent que dès leur intégration au sein de l'équipe, qu'il y a un sens dans leur travail.
Il faut que ce soit des personnes concernées déjà par les
Exactement. Et s'ils le sont concernés et partagent les mêmes passions et les mêmes valeurs que nous, on voit déjà qu'il y a dès le départ un épanouissement.
Christophe Nguyen, c'est un bon point déjà ça?
Oui, je pense que ça ressort dans l'étude. 7 salariés sur 10 disent que pour leur bien-être, il faudrait plus de sens. C'est quand même important. Alors derrière le sens, il y a beaucoup de choses.
Parfois, juste parenthèse, mais le sens, on l'a au début et puis on le perd au fur et à mesure des années quand on est dans la même boîte depuis 10 ans.
Oui, c'est pour ça qu'aussi, d'ailleurs, en termes de recrutement, il ne faut pas vendre de la soupe et il faut être au clair sur ce qu'on est en capacité de faire. Si on tombe sur des rêveurs, par exemple, qui peuvent être très déçus, ou effectivement, être bien sur la plaque de l'expérience qu'on peut offrir. Et je pense que la clé, elle est là, c'est de s'assurer que l'expérience du collaborateur est bien celle qui fit avec ce qu'on a vendu. Et la recherche de sens, c'est aussi ça, c'est est-ce que la façon dont je travaille, au-delà du travail que j'aime, me permet de bien le faire. C'est-à-dire que mes conditions de travail sont adaptées, et ce qu'on entend, c'est quand même 50% des salariés, que de plus en plus, on leur donne des process, on leur fait des réunions, on leur demande du reporting qui finalement n'est pas du tout épanouissant et donne pas de sens aux gens. Je sais pas vous, mais moi j'aime pas
en visio, parce que il y a eu ça avec le Covid.
Effectivement. Donc il y a une distanciation aussi avec son travail et donc le réel. Et je pense que ce qui est important, c'est bien comprendre aussi les moteurs des personnes vis-à-vis de ça. Est-ce que pourquoi tu veux faire ce travail effectivement pour l'humain, pour
peut-être. Si tu peux rebondir là-dessus, en fait, sur ce que Christophe dit, c'est cet épanouissement et ce match, c'est aussi par rapport aux missions, quelque chose qu'on essaie de mettre en place. C'est pas forcément au niveau de recrutement, mais ensuite au niveau de l'onboarding, c'est déjà avoir être très transparent au niveau des attentes, au niveau des missions de chaque employé, mais aussi être très flexible et très ouvert par rapport à ça. C'est-à-dire que quand on fait un onboarding et quand quelqu'un qui vient rejoindre notre boîte, on a des objectifs sur le mois, sur les 100 premiers jours de l'intégration du talent, et ce sont des objectifs sur lesquels on communique et qu'on essaye de changer, d'améliorer, de modifier en fonction de ce qui se passe.
La période de la prise de poste, c'est elle est clé pour ne pas aussi dégoûter le candidat qui se dit en fait moi j'ai dit oui parce que il y avait ça qui me plaisait, mais en fait je ne sais pas, je ne suis pas accompagné, on m'a mal expliqué les on m'a mal expliqué les missions, on ne prend pas le temps pendant les premières semaines avec moi pour me dire ce qu'il faut faire. Ça, c'est des choses auxquelles on doit faire attention.
Mais c'est ça, et c'est, comme vous dites, c'est exactement ça, c'est un accompagnement. Et c'est un accompagnement, c'est pas quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose de continu. Donc, avoir des remises en question tous les semestres, c'est pas assez. Donc, c'est pour ça que nous, on a des entretiens individuels avec les N+1 une fois par mois. Et ces entretiens, c'est l'opportunité pour les salariés de pouvoir revisiter, changer, modifier leur mission et aussi parler même de point de vue personnel, parce qu'il y a quand même des facteurs externes au burn-out. Des fois, c'est pas forcément...
Un entretien mensuel, vous le recommandez?
Oui, et j'ai envie de dire de la proximité au sens large. Effectivement, on peut donner des fréquences, des rituels. Ça, c'est important, plus ou moins formel. Il y a aussi toute la partie informelle. Et je crois que ce qui est vraiment important, c'est la dimension de réhumaniser finalement le travail. Et c'est un des avantages des startups, du fait qu'ils sont un peu plus petites, on va dire. Il y a cette dimension de soin, de prendre soin de l'autre, on va dire, en tout cas dans l'idée. et de proposer les meilleures conditions de travail, donc d'être à l'écoute. Et là où on voit qu'il y a un chiffre qui nous paraissait quand même surprenant dans l'étude, c'est qu'il y a un peu plus de la majorité, un peu plus de la moitié des salariés qui disent qu'ils ont l'impression d'être qu'une ressource pour les objectifs d'en haut, des actionnaires, des investisseurs. Doit être comme un outil, finalement, un peu déshumanisé. Et on entend vraiment beaucoup et de plus en plus aujourd'hui, du fait de l'augmentation de la charge de travail, des exigences, que finalement, on ne se rend pas compte du travail que je fais et de tout ce que je fais.
Bien sûr. Alors là, on parle des salariés au global. J'aimerais que pendant une ou deux minutes, on parle peut-être des managers un peu plus précisément, parce qu'ils nous écoutent aussi beaucoup sur BFM Business. J'entends ce que vous dites sur des entretiens beaucoup plus réguliers. Au lieu d'avoir un entretien annuel obligatoire, on va en faire tous les mois. Ça veut dire que ça met quand même une responsabilité aussi sur le manager qui va devoir être à l'écoute de ses collaborateurs de manière beaucoup plus régulière. Vous lui donnez les outils et les moyens de réussir à aller dans ce sens-là ?
Oui, carrément. Et puis après, c'est pas forcément une charge mentale énorme sur les managers si justement, dès le départ, on a fait ce qu'il faut aller pour créer des liens aussi entre les différentes personnes de la boîte. Et donc, bien sûr, il y a les entretiens individuels, mensuels, mais au-delà de ça, on essaie de créer des liens et créer un lien de rapprochement entre tous les individus qui font partie d'une entreprise. Et là, c'est notamment à travers des séminaires d'entreprise, des rendez-vous mensuels où des fois, on se rejoint autour d'un apéro, parce que c'est vrai, on est une boîte qui est en full remote, donc complètement en télétravail. Et donc, ça c'est un gros challenge.
C'est difficile d'avoir des moments de convivialité aussi. Ça, c'est un problème dans la manière dont le travail a changé avec la crise sanitaire.
Oui, bien sûr. Et le travail doit être repensé, effectivement, pour profiter du meilleur des deux mondes entre le présentiel et le distanciel. Qu'est-ce qu'on fait ensemble, finalement? On sait que pour coopérer, c'est quand même mieux de se voir quand on fait des réunions, du brainstorming. Et il y a un besoin aussi de feedback et de faire des retours, de reconnaissance aussi, de considération des personnes quand on les voit. Et c'est vrai que pour rejoindre la question des managers, souvent, eux, ils sont à la croisée des chemins. Il y a un vrai sujet autour de la charge de travail des managers et de leur disponibilité pour être proches et aussi mentalement disponible pour traiter ces sujets, quand parfois ça leur paraît contradictoire. Je dois faire les objectifs, la productivité, et en même temps m'occuper du bien-être des salariés. Comment je fais? Parce que si je donne un congé à mon salarié qui est fatigué, je fais pas les objectifs. Donc aidez-moi. Donc je pense que le sujet, il n'est pas qu'au niveau des managers de proximité, il est au niveau plutôt vraiment de l'organisation et de la gouvernance des entreprises.
Bon, on a bien compris que les entreprises se mobilisent. C'est votre cas chez vous, chez Crushon, avec des exemples très concrets que vous nous avez présenté. Malgré tout, c'était quand même notre point de départ. On est encore loin du compte.
Oui.
Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux entreprises qui sont encore des mauvais élèves? Des choses simples, peut-être, qu'elles peuvent faire sans forcément tout repenser, tout réorganiser.
Oui, c'est-à-dire que tout n'est pas acheté dans la poubelle. Il y a un tiers des salariés qui disent qu'effectivement, il y a des choses qui se passent, malgré que beaucoup disent qu'on peut aller beaucoup plus loin. Moi, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise intention de nuire à la santé des gens. Je pense qu'il y a un problème d'approche sur le sujet et qu'il faut réfléchir autour du travail réellement. Et donc, être à l'écoute des salariés. Ça peut passer par des sondages, des questionnaires, des entretiens, mais aussi, surtout, de se dire, en tant que dirigeant, est-ce que ce que je fais est vraiment utile pour la stratégie de ma boîte et surtout pour les gens? Est-ce que vraiment ça va répondre à une forme de performance durable? Je peux leur demander de s'engager très fort, mais est-ce que c'est durable et qu'est-ce que je mets en place pour qu'ils s'engagent dans le temps?
Merci beaucoup pour votre témoignage et votre analyse. Merci Christophe Nguyen, président du cabinet spécialiste de la qualité de vie au travail Empreinte Humaine, et Leïla Virasamy, directrice du cabinet directrice de cabinet de Crushon, galerie marchande de vêtements vintage en ligne. Merci.
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 BFM Business, Happy Boulot, le mag. Le Labo RH.
Et vous permettre d'interagir plus facilement avec votre comité d'entreprise, c'est la mission du leader des solutions numériques pour les CSE. Bonjour Stéphane Bonnet.
Bonjour Arwan.
Merci d'être avec nous depuis Lyon. Vous êtes le directeur financier d'Hello CSE en charge des ressources humaines. Hello CSE, une plateforme qui regroupe dans un seul et même espace tous les échanges entre les salariés donc et leur CSE en ligne ou directement sur l'application mobile que vous avez mis au point. Vous avez intégré cette année le French Tech 120 qui regroupe les 120 startups françaises les plus performantes et en capacité de conquérir le marché mondial. D'un mot peut-être pour commencer là-dessus, c'est ça votre objectif, c'est de partir à la conquête du monde?
Notre objectif, c'est toujours de continuer notre croissance et de notre volonté de remplir notre objectif principal, les avantages à la destination des CSE, et de continuer à avoir notre croissance raisonnée et de toujours avancer dans ce sens-là.
On a des comités d'entreprise à la française, dans le monde entier, où vous allez devoir aussi adapter les services que vous proposez lorsque vous allez exporter cette solution.
Pour l'instant, notre solution est destinée essentiellement aux comités donc socio-économiques, qui sont les nouveaux comités d'entreprise sur le marché français. Forcément, qu'on attaque le marché français, cela regroupe notamment des filiales étrangères ou des grands groupes étrangers qui ont leurs filiales aussi en France.
Bon, votre objectif clairement chez Hello CSE, c'est de dépoussiérer le bon vieux comité d'entreprise, non pas en le réinventant, mais en apportant une solution numérique qui va permettre de le rendre beaucoup plus accessible, beaucoup plus intuitif.
Oui, c'est l'idée, c'est de rendre l'outil accessible donc à tout le monde et que les élus puissent aussi se recentrer sur d'autres missions en leur facilitant leur quotidien. En proposant directement nos avantages billetterie, nos solutions de communication, nos outils de gestion pour tout ce qui est subvention et remboursement, et qu'il n'ait plus forcément à faire la fameuse perme du vendredi pour les tickets de cinéma.
Bon, est-ce qu'avec les tensions qui existent aujourd'hui autour du pouvoir d'achat et dont on parle beaucoup, les salariés, vous le constatez, ils utilisent de plus en plus cet outil qui est très pratique. Il est sur le téléphone, on l'a dans la poche et puis on peut effectivement avoir des réductions sur des achats culturels ou sur des salles de sport par exemple ou des salles de cinéma.
Oui, c'est l'idée. On le voit depuis les derniers mois avec les problématiques sociaux que l'on connaît. Cela fait vraiment un véritable avantage pour les salariés, et nous nous rendons compte, notamment dans les offres d'emploi de nos clients, qui nous le disent, que notre solution est mise en avant maintenant comme un réel avantage différenciant pour attirer les candidats aussi dans un marché toujours compliqué. Donc, et surtout, notre grande force est la version, on va dire, dématérialisée, ce qui permet d'être automatique. Vous êtes en caisse, vous commandez, vous avez votre bon de réduction. Plus besoin d'anticiper vos achats.
Merci beaucoup Stéphane Bonnet, directeur financier d'Hello CSE, d'être venu nous présenter cette solution sur BFM Business. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouvez Happy Boulot en replay, en podcast. Et puis cette émission, c'est la vôtre, bien sûr. Ce qui nous intéresse, c'est votre vie au travail. Vous voulez qu'on traite un sujet qui vous concerne, vous nous écrivez. Et d'ici là, on vous souhaite d'être heureux au boulot.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.